Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Culture Monde, le magazine d'actualité internationale de France Culture. Une émission préparée avec Bertille Bourdon, Léa Capuano, Gwendoline Troiano, Barthélémy Gaillard et Nora Litoussi, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique. Ce matin, c'est Dalia. Comme chaque vendredi, notre séquence Retour de terrain dédiée au reportage avec aujourd'hui Julia Pasquale qui revient de Géorgie et puis notre table ronde d'actualité en partenariat avec le journal Le Monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
À nos côtés, comme chaque vendredi, pour animer la discussion, nous parlons ce matin de la situation en Haïti qui s'enfonce dans le chaos et l'insécurité, décriée depuis des mois pour son incapacité à rétablir l'ordre et son manque de légitimité puisqu'aucune élection n'a eu lieu depuis 2016. Le Premier ministre Ariel Henry a fini par démissionner. Il laisse la place à un conseil de transition. Mais qui et comment gouverner alors que la capitale est contrôlée à 80% par des groupes criminels et que l'État n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions les plus élémentaires? Nous en discuterons avec nos invités. Éric Sauret, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue.
Merci.
Vous êtes avocat, politologue spécialiste des institutions haïtiennes, auteur notamment de L'opposition politique en Haïti, régicide, manicide et tyrannicide, auto-édité en 2022. Et Romain Lecourt-Grandmaison, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue également. Vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et expert senior chez Global Initiative, un centre de recherche sur le crime organisé basé à Genève. Merci d'être avec nous. Rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, place à notre retour de terrain. Bonjour Julia Pasquale.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au journal Le Monde, vous revenez de Géorgie dans le Caucase où vous êtes allé à la rencontre de ceux qu'on appelle les retournés volontaires, des hommes, des femmes, des familles surtout qui ont accepté de rentrer dans leur pays après s'être vu refuser une demande d'asile en France. La Géorgie étant considérée comme un pays sûr, leurs ressortissants ont peu de chances d'obtenir cette protection et plutôt que de se retrouver dans l'illégalité, ils sont nombreux à accepter le dispositif du retour volontaire. Aider un petit pécule accordé par la France pour financer une formation ou un projet d'entreprise. Comment ces familles vivent-elles leur retour au pays? Comment reprennent-elles le cours de leur vie suspendue par leur projet migratoire? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Mais avant de répondre à cette question, est-ce que vous pouvez nous dire, nous expliquer comment et pourquoi la plupart de ces familles sont arrivées en France, en général avec un objectif très précis, et vous l'avez découvert en les rencontrant à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle.
Oui, j'en ai rencontré certains au moment de leur départ de France, donc c'était en septembre à l'aéroport au moment où ils embarquaient, en discutant avec eux et après en rencontrant d'autres familles en Géorgie, j'ai pris la mesure de l'importance du motif médical comme motif de migration, c'est-à-dire que à l'exception d'une personne, tous ceux que j'ai rencontrés étaient venus en France dans l'espoir d'être soignés par rapport à différents problèmes de santé. Par exemple, pour un enfant, c'était le cas d'une scoliose grave ou d'une tumeur, également des problèmes de diabète sévère, etc.
Est-ce que ça veut dire que le système de santé géorgien est à ce point peu fiable que les familles entreprennent un projet de migration avec évidemment tout le coût que cela engendre, l'endettement, le fait de partir avec des enfants en bas âge, de se retrouver dans la précarité en France, de laisser une famille, un business derrière soi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle méfiance vis-à-vis du santé de système géorgien?
Effectivement, moi j'ai pu ressentir cette méfiance de la part des personnes, c'est-à-dire par exemple je pense à quelqu'un qui avait justement un diabète sévère et il avait commencé, enfin évidemment il était pris en charge dans son pays, mais il y avait un reste à charge important et puis il a eu un ulcère au pied et il a été amputé et lui ce qu'il me dit c'est que il décide de partir parce qu'à un moment son médecin ne lui propose rien d'autre que de, et je le cite, couper, 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 et donc il part en France avec sa femme et effectivement en France, il est pris en charge et l'ulcère est soigné. Et donc il y a cette question de méfiance vis-à-vis du système et aussi de reste à charge. Je pense à cette dame qui est partie en France parce que sa fille avait besoin d'être opérée d'une forme de scoliose grave et elle disait que en gros en Géorgie, déjà on lui avait dit que les implants étaient pas très disponibles et puis on lui a dit qu'on n'était pas sûr de la réussite de l'opération et elle avait calculé aussi que ça lui coûterait 23 000 dollars et moins de la moitié serait pris en charge.
Ces Géorgiens, ils sont originaires de, en tout cas ceux que vous rencontrez de cités ouvrières, puisque vous allez les voir dans leur village ou leurs appartements d'origine, donc milieux ruraux, banlieue ouvrière. Est-ce que ce sont pour la plupart des personnes de conditions modestes ou est-ce qu'il y a aussi des Géorgiens de classe moyenne ou de classe aisée qui entreprennent ce voyage en France pour se faire soigner?
Alors parmi les personnes que j'ai rencontrées et qui ont donc toutes souscrit au programme de retour volontaire. Toutes étaient issues des milieux populaires. Alors c'est pas les classes les plus pauvres, hein, parce qu'effectivement pour migrer, on le sait, hein, que ce soit en Géorgie ou ailleurs, il faut avoir les moyens de migrer. Donc ce sont des classes populaires, mais pas les plus pauvres, effectivement.
Et si on revient à ce couple dont vous évoquiez le parcours, parce qu'ils sont venus faire soigner un diabète sévère, David Gamrashvili et sa femme Nana, ils ont séjourné dans le Pas-de-Calais, à Béthune. Leur séjour a duré moins d'un an. Pourquoi ont-ils dû repartir ?
Alors, ils arrivent dans le Nord, ils demandent l'asile parce que ils savent que c'est un des rares, voire le seul moyen d'obtenir un hébergement et une protection sociale, enfin une couverture maladie, quoi, la prise en charge des soins. Et ils sont hébergés effectivement, mais leur demande d'asile rapidement est rejetée. Il faut savoir que à l'échelle même de l'Europe, hein, les demandes d'asile géorgiennes sont rejetées en moyenne à 96%. Donc leur demande d'asile est refusée et du coup ils vont tomber dans une forme de précarité, c'est-à-dire David a beau être soigné pour son diabète et pris en charge, ce qui est important pour lui parce que c'est, de toute façon ça il le perdra pas, même si en réalité il continue d'avoir besoin d'être suivi, mais du coup ils vont tomber en France dans une forme de précarité où ils font l'objet d'une obligation de quitter le territoire, on leur dit que l'hébergement ils n'y ont plus droit, on les met pas tout à fait à la rue, mais quand même ils comprennent que ce serait bien s'ils partaient et donc eux ils se sentent en plus dépourvus de d'alternatives, ils n'ont pas le droit de travailler et donc ils disent bon, on se sent un peu comme des mendiants on préfère rentrer parce que de toute façon il y a pas d'autre solution, quoi. C'est trop de stress que de rester dans cette situation d'irrégularité.
Le stress, c'est d'ailleurs ce que vous évoque Nana quand vous la rencontrez à l'aéroport et qui vous dit fini. Le stress et finalement on entend qu'il y a une forme de soulagement à rentrer.
Oui, et plus encore chez lui en fait, c'est-à-dire qu'elle avait une forme de sociabilité quand même qu'elle avait appréciée, elle avait rencontré du monde, elle avait fait des efforts pour parler un petit peu français de façon très sommaire. Et lui vraiment, ça lui pesait, il se sentait vraiment presque humilié quoi à être pris en charge comme ça, et donc il disait que il était presque en dépression quoi, et en tout cas il sortait pas du centre, il parlait avec personne, et donc vraiment il était soulagé effectivement de rentrer, puis ils allaient retrouver leurs enfants et petits-enfants.
Alors à l'aéroport, ils reçoivent chacun une enveloppe de la part de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Que contient cette enveloppe ?
Alors pour les Géorgiens, c'est 300 euros. Pour d'autres nationalités, ça peut être un peu plus important. Mais voilà, pour les Géorgiens, c'est vraiment une enveloppe de 300 euros. Le billet d'avion est également pris en charge par l'OFI. Et puis, une fois arrivés en Géorgie, s'ils le souhaitent, les retournés volontaires peuvent demander une aide. S'ils ont un projet, par exemple, de création d'entreprise ou de reprise de commerce ou de business. Et donc, par exemple, c'est le cas de David et Nana. Elle a obtenu la prise en charge d'une formation en cuisine. Bon, il se trouve qu'elle a bénéficié de cette formation, elle était très contente et elle a pour projet de monter un petit business autour de ça. Mais en attendant, elle a dû rapidement retravailler pour parer à l'urgence. Et donc, elle est actuellement femme de ménage et elle gagne autour de 200 euros par mois.
Il y a aussi le cas de Nini Gibladze, qui est aussi une mère de famille, qui, elle, a fait une demande de formation en manucure. Elle a pu acheter un peu de matériel grâce à l'enveloppe donc, de ce programme de retour volontaire aidé. Quels espoirs elle fonde sur la perspective d'un business? Qu'est-ce que ça représente pour elle?
En règle générale, ces business-là qui sont développés grâce à l'OFI, alors majoritairement, c'est des projets plutôt dans les zones rurales, donc ça va être élevage laitier, donc les gens vont s'acheter 3 vaches qui vont faire du lait, c'est pas forcément des grosses vaches laitières. Donc, et là, que ce soit le business de manucure qui essaye de développer Nini, c'est plutôt des revenus, ça va être plutôt des revenus d'appoint, où ça va permettre de relancer un petit business ou de s'acheter quelques équipements, mais ça représente pas à l'arrivée des revenus faramineux. De toute façon, c'est lié aussi au niveau économique du pays. Et pour Nini, donc c'est l'espoir de développer ce business de manucure qui marche bien hein, en Géorgie de façon générale. Mais c'est pareil. En attendant, elle a dû quand même retrouver un travail pour faire vivre sa famille. Et puis, comme le dit son conjoint, tôt ou tard, on devra migrer. De nouveau, lui, il est un peu fataliste, alors pas forcément en France, mais ils se disent qu'ils devront repartir parce qu'ils voient, même si voilà, ils s'en sortent au quotidien, ils se projettent pas. Leur fille, qui a été soignée d'une tumeur en France, a quand même un gros besoin de suivi, et notamment par des spécialistes, et ils ont du mal à, un, à trouver ces spécialistes en Géorgie, et deux, à payer les frais que ça représente.
Et cette famille, elle, était restée un petit peu plus longtemps en France, presque 2 ans. Les enfants, donc l'aîné qui était venu pour être soigné d'une tumeur, 10 ans, et sa petite sœur avait pu être scolarisée. Qu'est-ce que ça change, ça, quand il y a des enfants en bas âge? Est-ce qu'il y a une scolarisation? Est-ce que ça implique d'avoir un projet de rester à plus long terme?
Effectivement, Nini, quand je la rencontre avec son conjoint et ses 2 filles à l'aéroport de Roissy, voilà, les enfants sont hyper contents parce qu'ils vont retrouver leur grand-mère, donc ils sont contents de ce voyage. Et les parents sont un peu plus désabusés parce que, une fois de plus, ils rentrent parce qu'ils n'ont pas d'autre issue en France, mais ils sont un peu amers parce que leur fille a appris, l'aînée notamment, parle un français presque courant au bout de 2 années de scolarisation. Donc la mère doit essayer l'espoir que sa fille fasse des études en France. Et elle n'y a pas tout à fait renoncé. Après, il faudra voir comment ce projet peut se concrétiser à terme. Mais voilà, il y a malgré tout une forme d'amertume qui persiste.
Toujours à propos de ce programme d'aide au retour volontaire, vous citez dans votre article des études qui ont été réalisées pour mesurer l'impact de ce programme. Qu'est-ce qu'elle conclut en matière à la fois, vous disiez tout à l'heure que ce sont finalement des revenus d'appoint davantage que des revenus principaux. Qu'est-ce que disent ces études sur l'incitation que crée ce programme à rester dans son pays ? Puisque c'est ça le but de ce programme.
Alors, il y a une étude que l'OFI a fait mener et qui est plutôt positive, qui montre que il y a une partie des programmes qui, sur le long terme, les entreprises, par exemple, qui ont été créées, continuent d'exister, même s'il y a un taux d'échec naturellement, mais comme dans tout business. Donc, c'est plutôt un retour positif. Voilà. Après, une fois de plus, les gens, ça les empêche pas de nourrir quand même le projet, parce que quand on est sur de la migration économique. On rentre au pays, on a une aide pour monter un business, mais voilà, la situation économique du pays, elle n'a pas été révolutionnée, elle n'a pas été transformée. Donc, si on fait face à des accidents de la vie, quels qu'ils soient, ou si on a de l'ambition pour ses enfants, notamment en termes d'études, etc., bah, on peut vouloir continuer de migrer. On a cette dame qui a repris son business de coiffure, son salon de coiffure, quand elle est rentrée de France, qui marche très bien, c'est un métier qui lui plaît, mais parce qu'elle veut être propriétaire et parce qu'elle veut que sa fille puisse étudier en France un jour, elle a le projet de migrer en Israël pour, comme femme de ménage ou aide aux personnes âgées, gagner 4 000 $, enfin c'est ce qu'elle espère, en tout cas 4 000 $ par mois. Une somme qu'elle pourra jamais gagner en Géorgie, quel que soit son travail et sa réussite professionnelle.
Donc là, c'est pas un projet d'aller se faire, de migrer pour résoudre un problème de santé, mais... mais une migration
tout à fait.
Pour avoir une perspective d'amélioration de sa condition de vie. Les deux phénomènes coexistent. Mais justement, sur ces familles que vous avez rencontrées, qui arrivent pour faire prendre en charge un cancer, une scoliose, un diabète, il y a même aussi un couple qui vient pour des problèmes d'infertilité. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment dans leur parcours, le projet change? C'est-à-dire, on vient pour chercher une solution à un problème médical, et puis on se dit on pourrait rester parce que par manque encore une fois de perspectives sur place.
Oui, je pense que effectivement c'est de toute façon la migration c'est toujours des motifs mixtes et c'est rarement un seul motif de départ qui explique le déplacement. Et là en l'espèce il y a une urgence qui s'impose du fait d'un problème médical, d'un problème de santé, mais c'est un problème de santé qui est aussi qui ne peut pas être résolu dans le pays de résidence, souvent parce qu'il y a aussi un obstacle économique. Donc tout est lié, je pense, dès le départ en réalité.
Julia Pasquale, d'après la responsable de l'OFI, l'Office français d'immigration et intégration, qui est basée à Tbilissi en Géorgie, les aides perçues par les bénéficiaires seraient en baisse. Pourquoi ?
En fait, c'est la responsable de l'Organisation internationale des migrations, qui est une agence de l'ONU. Et donc, eux, ils ont une vision un peu plus large. Ils voient les programmes français de retour volontaire, mais d'autres pays européens mettent en place ces programmes. Et donc, ils ont observé que, globalement, les critères d'éligibilité se resserrent, et c'est le cas aussi en France. Et donc, que les gens, au fil du temps, vont avoir de moins en moins d'aide. Et ils disent, or, si on veut que ces gens... Si l'objectif de ces aides, c'est que les gens restent dans leur pays et s'y implantent et s'y réintègrent durablement, il faut que ces aides soient plus importantes et ne diminuent pas, en tout cas, soient pas plus difficiles à obtenir. Et en France, effectivement, là, par exemple, il y a eu une modification en début d'année qui fait que si, quand on a une obligation de quitter le territoire, une OQTF, on souscrit pas dans les 4 mois, quand on est géorgien, si on souscrit pas dans les 4 mois à un projet de retour volontaire, on perd le pécule le bénéfice du pécule de 300 euros.
Et il y a aussi un autre sujet. Vous le disiez tout à l'heure, les Géorgiens déposent des demandes d'asile qui pour la grande majorité sont refusées. Ce sujet a fait l'objet de déclarations, notamment de l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui a parlé d'une dette médicale de la part de la Géorgie. Est-ce que c'est un objet de contentieux aujourd'hui entre la France et la Géorgie?
Alors, je pense que oui, effectivement, depuis plusieurs années, c'est l'objet de, en tout cas, de discussions et de tensions diplomatiques entre les deux pays, et puis plus généralement entre l'Union européenne et la Géorgie, qui est candidate à l'entrée dans l'Union européenne. Donc, il y a eu une libéralisation des visas en 2017 qui permet aux Géorgiens de venir dans l'espace Schengen sans visa, et du coup, ça a généré des flux migratoires indésirables pour les États membres. Notamment qui se manifestent par de la demande d'asile, des demandes de titres de séjour pour étrangers malades. C'est pas des volumes énormissimes. Hein. En 2022, c'est 28 000 demandes d'asile en Europe de la part de Géorgiens à 96% rejetées. Dans toute l'Europe, une Europe qui, cette année-là, a reçu près d'1 million de demandes d'asile. Donc voilà, faut remettre les choses dans leur contexte. Ça reste faible, mais comme on sait que c'est un sujet politiquement très sensible et très irritant, voilà, les États essaye de juguler ces demandes qu'elle juge infondées. Le président de la République lui-même, Emmanuel Macron, régulièrement dit la demande d'asile est détournée. Et les Géorgiens sont, sans être nommés, visés par ces propos-là. Ce n'est pas les seuls, mais ils le sont.
Et du côté des retournées volontaires, plusieurs vous disent qu'aujourd'hui, bien que ce projet d'immigration ait échoué, bien qu'ils aient été déboutés du droit d'asile, et bien qu'ils aient eu cette aide pour monter un petit business en Géorgie, quelques-uns vous disent qu'il faudra qu'on retourne, il faudra qu'on revienne en France.
Exactement, oui. Exactement. Alors, en France ou ailleurs, il y a une dame qui veut partir donc, en Israël, il y en a une autre qui veut partir en Grèce... Souvent pour des boulots, voilà, de femmes de ménage, aide à domicile, etc. Et effectivement, on sent qu'il y a quand même une amertume forte qui demeure par rapport à une situation économique et sociale dans le pays qui reste majoritairement très difficile.
Merci beaucoup. Merci Julia Pasquale. Votre reportage sur les traces des retournées volontaires de Géorgie, c'est à lire sur le site du monde.fr. Un lien sera fait sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup d'être venu dans le Retour 2.
Merci à vous.
წამით რო და მიბრუნო თან ცხოვრება და დრო სუნთქვა შევიჩერებდი წამოყვებოდი მინდა რომ დავიჯერო რეალობას გავეკეცი ვერ შეძელი ვერ გადაგარჩინე ვეღარ დაუჯერებ დროს და ვერ გავყვები შორს როგორ მჭირდები არიცი რო შეტევა მოსკადი სასეთრო შენ გარეშე კიდევ როგორ ვისუნთქო შურსი მანგელოზების თუ ჩემ მოდრაკაკები ამინა დავიჯერო ყველაც რომ სავს ისტორია თუ მერა ყოფილა სიყვარული ჩუბი არგუმენტებით ეს ცხოვრება იღო სამყარომ დაფსაჯა უსამართლო მეტონა გარდაჩი
La chanteuse georgienne Irina Rechanovi, dite Irou, née en 2000 en Géorgie et qui a représenté son pays à l'Eurovision 2003 avec ce titre Sin, sorti en 2023. Et c'est ainsi qu'on quitte le Caucase, direction Haïti.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Comme toujours dit, il n'y a aucun sacrifice.
Comme je l'ai toujours dit, aucun sacrifice n'est trop grand pour notre pays, Haïti. Après un conseil des ministres tenu ce soir, le gouvernement que je dirige a accepté de mettre en place un conseil présidentiel de transition. Les acteurs devront choisir les membres qui constitueront ce conseil. Mon gouvernement se retirera immédiatement après l'installation de ce conseil, mais il continuera à expédier les affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un gouvernement. Haïti a besoin de la paix, de la stabilité. Le pays a besoin de prendre le chemin du développement durable, de reconstruire ses institutions démocratiques. Je demande aux Haïtiens de garder leur calme, de travailler pour rétablir un climat de paix dans les meilleurs délais.
L'ancien Premier ministre haïtien Ariel Henry qui annonçait dans un message posté sur les réseaux sociaux en début de semaine sa démission. Non élu mais dirigeant de facto du pays après l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, il était très critiqué pour son incapacité à faire face à la crise sécuritaire et sociale qui ronge le pays. Son annonce fin février de l'organisation d'un scrutin en 2025 avait fait l'effet d'une bombe car elle signifiait son intention de se maintenir au pouvoir jusqu'à cette date inacceptable. Acceptable pour les Haïtiens qui ont le sentiment d'un pouvoir confisqué alors que le pays traverse une des pires crises sécuritaires de son histoire. Les gangs armés qui sévissent depuis des années contrôlent désormais plus de 80% de la capitale, Port-au-Prince, où ils utilisent la terreur pour asseoir leur autorité et faire prospérer leur trafic. Alors quelle transition dans un tel contexte ? On en discute jusqu'à midi. On commence avec vous, Marc Semo.
Oui, Mélanie. Alors, l'histoire d'Haïti, qui fut la première république noire du monde, née de la révolte des esclaves et des idéaux de la révolution de 1789, est une tragédie sans fin, avec une suite de dictateurs sanguinaires dont les plus célèbres furent les sinistres Duvalier, père et fils. Cette île est aujourd'hui l'archétype même de l'État failli, totalement réduit à l'impuissance, enfoncé dans une spirale autodestructrice, l'éducation étant pointillée, l'économie étant lambeau, l'État sanitaire déplorable, c'est tout un peuple abandonné qui souffre, qui a faim et qui meurt. La révolte des coalitions de gangs criminels, dont la G9, dirigée par le sinistre Barbecue, un ancien policier, a, comme tu le disais, pris le contrôle de Port-au-Prince et a finalement contraint à la démission le Premier ministre Ariel Henry. Le très impopulaire chef du gouvernement mis sur pied après l'assassinat en juillet 2021 du président Jovenel Moïse, soutenu longtemps par Washington, Ottawa et Paris. Il n'a, en revanche, jamais été légitimé par les urnes. C'est une opportunité pour restaurer la sécurité et la démocratie à Haïti. Mais la communauté internationale doit aussi tirer les leçons du passé et de l'échec des interventions internationales sous l'égide de l'ONU, dont la dernière en date, entre 2004 et 2017, fut entachée de nombreux abus et qui a en outre porté le choléra dans l'île. Il faut s'appuyer sur les forces vives du pays et une société civile assez vive afin de créer les conditions d'une véritable transition vers la démocratie. Mais la première des priorités doit être la mise au pas de ces gangs, créés à l'origine par une oligarchie affairiste et qui sont devenus un véritable État dans l'État, contrôlant chacun leur territoire, régnant par la terreur, les viols, les exactions. Et cela ne sera pas simple.
Merci beaucoup Marc Semaux. Je rappelle que nous sommes avec Éric Soret et Romain Lecourt, Grand Maison. On va parler de la puissance de ces gangs en Haïti. Je voudrais quand même qu'on commence avec, pour comprendre l'enjeu de la démission de l'ancien, désormais Premier ministre Ariel Henry, Éric Soret, qui est intervenu en début de semaine. Est-ce que cette démission qui était très attendue a permis de faire un tout petit peu retomber la pression ?
Je crois que cette démission a permis plutôt de comprendre le jeu des élites politiques haïtiennes. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est une prise de pouvoir par des gangs, mais qui ne sont pas, je dirais, des entités isolées. Ce sont des entités qui travaillent en lien avec le pouvoir politique et, comme cela a été très bien dit, avec aussi l'oligarchie, l'élite économique d'Haïti. Donc, ça clarifie la situation, comme ça les masques sont tombés, et puis quand on verra apparaître les prochains bénéficiaires de ce que certains appellent une transition, ce qui ne sera pas une transition, c'est la continuité de la descente vers l'enfer.
Vous n'y croyez pas à l'idée qu'il puisse y avoir une transition?
Non.
Ce qui s'est passé en Jamaïque il y a quelques jours avec la réunion de la CARICOM, les États d'Amérique latine et des Caraïbes, a mis donc sur pied un conseil présidentiel de transition. Les forces politiques haïtiennes et la société civile avaient quelques jours pour donner des noms pouvant former ce gouvernement a priori composé de sept personnes.
Oui.
On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on sait qui va siéger, à quelle date, avec quel mandat?
Alors, d'après les informations que j'ai, hier soir, des noms, il y a six noms, il faudrait sept personnes, mais il y a six noms qui ont été communiqués, dont un ancien ministre. Alors, je ne cite pas son nom puisque ce n'est pas encore officiel. Un ancien sénateur de la République, un sociologue très réputé. Bon, il y a des personnes. Là, encore une fois, ce qu'on doit bien comprendre, c'est qu'on a l'impression d'une solution qui vient de l'extérieur par le biais de la CARICOM. Néanmoins, les élites dites pauvres, enfin, en tout cas présupposées, d'Haïti contribue largement à la formation, parce qu'en réalité, la proposition est venue de Port-au-Prince. Depuis Haïti, il y a des partis politiques, des membres de la société civile qui ont envoyé une offre de service en quelque sorte à la CARICOM, et ces personnes travaillent à la composition du conseil présidentiel de transition.
Ces incertitudes, Romain Lecourt, Grand Maison, qui entourent cette transition qui commence à peine à se mettre en place, ces incertitudes, si elles durent, est-ce que cela ne risque pas de bénéficier aux gangs ?
Si, tout à fait. En réalité, je suis d'accord avec ce que disait Marc Semaux et ce que vous disiez à l'instant aussi. La période de transition, elle est déjà très incertaine. Je pense que il faut avoir bien en tête aujourd'hui que ce qui se passe depuis les attaques à Port-au-Prince le 29 février, à mon sens, une bonne façon de le lire, c'est une espèce de stratégie de pression maximale qui est portée donc à l'époque, à ce moment-là, sur le gouvernement d'Ariel Henry, qui n'était pas dans le pays, qui n'a jamais pu rentrer dans le pays depuis, et qui porte sur le fait de faire tomber effectivement ce gouvernement et de porter autre chose, quelqu'un d'autre au pouvoir. Et je pense qu'aujourd'hui, on est toujours dans cette étape dans laquelle vous avez deux ou plusieurs, ou encore plus de lignes parallèles qui s'affrontent. Il y a une ligne qui veut probablement continuer dans le chaos et la violence. Il y a une ligne qui cherche à trouver une transition politique, et ces lignes, aujourd'hui, sont toujours en affrontement. Ce que ne porte pas la transition actuelle, en tout cas pas aujourd'hui, c'est une résolution de la crise sécuritaire qui a encore flambé hier soir. La résidence principale du directeur général de la police a été attaquée, pillée, incendiée. Il n'était pas dedans, mais ça montre à quel point, je pense, la situation est catastrophique sur place.
Les événements auxquels vous faites référence, il faut qu'on les rappelle. rappelle, c'est-à-dire fin février, en fait c'était il y a tout juste 2 semaines, vous avez dit à l'époque, mais c'était il y a à peine 2 semaines, le temps passe extrêmement vite. C'est une attaque coordonnée et d'une ampleur inédite des différents gangs contre les institutions. Donc il y a eu l'attaque spectaculaire contre 2 prisons qui ont permis la libération, l'évasion des prisonniers, contre des commissariats, contre le palais présidentiel. Que sait-on de l'objectif de cette opération? Que visait-elle? C'était une démonstration de force? Il s'agissait de faire partir l'ancien Premier ministre qui venait d'annoncer des élections pour dans 2 ans? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas complètement encore, évidemment. Ce qu'on arrive à comprendre aujourd'hui, c'est que il y a une séquence qui probablement est ouverte, y compris entre décembre et janvier, par un personnage qui s'appelle Guy Philippe, un ex-policier lui aussi. Ensuite, je vais la faire courte, mais qui a été condamné aux États-Unis pour trafic de drogue, extradé vers les États-Unis, emprisonné, libéré en décembre, déporté vers Haïti. Il revient sur la scène politique et il recrée très vite une stratégie de tension maximale dans le pays, jusqu'à le 7 février, qui était la date à laquelle Ariel Henry avait dit qu'il partirait du pouvoir de cette année. Ce qui se passe a priori ensuite, c'est une recoordination entre différentes entités de gangs, y compris, vous avez cité Barbecue et G9. Je pense que c'est important de rappeler qu'à ce moment-là, Barbecue et G9 étaient dans une position très faible, en grosse perte de vitesse et de territoire sur la scène locale, sur la scène de violence et de contrôle territorial local. Et vous avez apparemment une coordination entre des forces politiques, des forces privées et les gangs, dans une stratégie probablement de la dernière chance de faire tomber le gouvernement d'Ariel Henry. Le lancement d'attaque, vous l'avez dit, coordonnée, systématique contre des institutions publiques. L'ampleur est sans précédent à ce moment-là. Et ensuite, je pense, une vague d'opportunisme, honnêtement. Vous l'avez évoqué, l'annonce des élections d'août 2025. Moi, j'étais à Port-au-Prince à ce moment-là. Vous avez utilisé le terme de bombe politique. Je pense que c'est vraiment ça. Il y a une partie de la classe politique et privée haïtienne qui s'est dit c'est la dernière chance qu'on a de faire tomber Ariel Henry. Les attaques sont lancées le lendemain. Ça, je pense que c'est pas complètement coordonné, honnêtement. Mais à ce moment-là, vous avez une autre partie, la dernière partie peut-être de la classe politique et privée qui se lance dans la bataille et se dit que la violence et le chaos sera sa dernière opportunité effectivement de faire sortir Ariel Henry, qui sinon sera là jusqu'en août 2025. Et c'est là, c'est dans cette séquence qu'on est encore, malheureusement, aujourd'hui.
Marc Sémo.
Oui, c'est un peu un cas sans précédent, c'est un coup d'état des gangs, pour faire simple. Quasiment, ça revient à ça. Avec en plus une coalition, alors qui a trouvé ce nom commun de vivre ensemble, ce qui est quand même assez stupéfiant. Mais, justement, qu'est-ce qui pourrait, aujourd'hui, comme force, vaincre les gangs au niveau et reprendre le contrôle, notamment de la capitale, si ce n'est pas une intervention internationale?
Éric Sauret.
Est-ce qu'il y a des forces internes? Est-ce qu'il reste à l'État des forces à même de faire face?
Alors, je ne fais pas confiance aux forces internes d'Haïti. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand vous regardez le profil des soi-disant ou présumés chefs de gang ou ceux qui sont en mesure d'arriver aux responsabilités avec ce coup d'État irrationnel, ce sont d'anciens policiers. Bien. D'anciens policiers et même anciens militaires en ce qui concerne Guy Philippe. Bien. Quand vous regardez le profil des politiciens susceptibles d'arriver aux responsabilités, ce sont des gens qui, pour la plupart, étaient en lien, cela a été dit, hein. Vous savez, la plupart du temps, avant les élections, il y a un organisme en Haïti des droits de l'homme qui communique sur le profil des candidats. La plupart du temps, 30% sont des bandits, des trafiquants, etc. Quand vous regardez le profil des personnes qui ont été impliquées dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, des sénateurs, des députés, etc. C'est-à-dire que vous avez une société qui est gangrenée et en réalité, en plus d'une crise politique, on est dans une crise sociale. On est face à une société, je dis plus un État, parce que c'est pour ça que j'ai du mal à dire coup d'État, parce que, alors, il y a toujours un État, c'est cela, il y a toujours un État. Là, il est effondré.
Et puis, ils n'ont pas pris le pouvoir, c'est-à-dire...
Ils n'ont pas pris le pouvoir, mais nous sommes dans une situation très dangereuse. Que demandaient les gangs qu'Ariel Henry démissionne et que la force internationale n'arrive pas. Bon, Ariel Henry a démissionné, mais il reste la question de la force internationale. Le conseil présidentiel qui va être mis en place aura sans doute pour mission d'accepter la venue de la force internationale. Ça veut dire que les gangs ne vont pas désarmer, puisqu'il y a une mission qui n'aura pas été totalement remplie. Autrement dit, le danger est le suivant, les gangs vont prendre encore plus de pouvoir, ils vont prendre encore plus de terrain, et quand vous contrôlez Port-au-Prince, c'est comme Paris, le désert français, hein. Quand vous contrôlez Port-au-Prince, vous contrôlez Haïti, et donc, autrement dit, c'est la raison pour laquelle je considère qu'on n'entre pas dans une période de transition. On est dans la continuité de la défaillance de l'État haïtien, de l'effondrement de l'État, ce qui demandera, oui, sans doute, un effort plus important de la communauté internationale. Alors, avec des nuances, parce que quand vous dites communauté internationale, les citoyens haïtiens n'en veulent pas. Parce qu'on considère qu'à chaque fois, la communauté internationale intervient, et puis c'est un échec. Mais en même temps, on souhaiterait que la communauté internationale fasse quelque chose. Donc il y a une contradiction. Et la vraie difficulté aujourd'hui, c'est de se dire, eh bien, qu'est-ce qu'on peut trouver comme alliance à l'intérieur d'Haïti et à l'extérieur, parce qu'il y a des gens à l'extérieur qui pourraient aider pour faire en sorte que ce pays sorte de cette logique de violence. Néanmoins, il va falloir armer, hein. Là, on est chez Pascal, puisque les justes ne peuvent pas être forts. Il faudrait faire en sorte de les armer, de les rendre forts, parce que je ne vois pas comment un pouvoir en Haïti aujourd'hui peut combattre des gangs qui sont beaucoup plus armés que ce qui reste des institutions haïtiennes.
Ce paradoxe et ce sentiment ambigu par rapport à la communauté internationale, on voit bien aujourd'hui que les gangs tentent de l'exploiter. Et je pense aux propos tenus par donc Jimmy Cherizier alias Barbecue, qui a eu des propos pour dire nous appelons à la démission du Premier ministre, nous ne voulons pas d'une force étrangère. Il a menacé de guerre civile, de génocide si des forces armées étrangères débarquaient en Haïti. Est-ce qu'aujourd'hui il y a le risque que les gangs opèrent une récupération politique de la chute de Ariel Henry et se présentent comme une force politique alternative? Je vous pose la question parce que c'est un discours qu'il convient de relativiser ou d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Quand vous étiez venu en parler il y a un mois et demi à notre micro, Romain Lecourt Grand Maison, il avait été dit, et il faut le redire, que ces groupes criminels sont avant tout des groupes criminels et non pas des forces politiques.
Oui, alors je pense que pour revenir sur l'idée du coup d'État mené par les gangs, et ce qui va avec la question que vous venez de poser, à mon sens, les gangs sont capables de faire tomber un gouvernement. Les gangs sont pas capables de former un gouvernement, et je pense même pas qu'ils soient très intéressés à l'idée de profondément gouverner le pays. C'est un fardeau, honnêtement, aujourd'hui, de gouverner un pays, et c'est probablement un énorme défi de gouverner un pays comme Haïti. Je pense pas qu'ils soient très intéressés à ça. En revanche, quand vous êtes un groupe criminel comme le sont les gangs les plus puissants en Haïti aujourd'hui, qui sincèrement ressemblent davantage à des milices qu'à des gangs au sens propre du terme, vous êtes capable de contrôler du territoire, vous contrôlez des populations, vous contrôlez des secteurs économiques entiers, vous contrôlez des secteurs économiques licites et illicites. À partir du moment où vous êtes capable de faire ça, vous devenez politique. Donc les gangs sont déjà des acteurs politiques qui sont malheureusement incontournables aujourd'hui. C'est un peu la question et l'éléphant au cœur de la pièce et de la discussion aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer avec les gangs au-delà de la question sécuritaire. Il y a un défi sécuritaire qui est exceptionnel aujourd'hui, mais qu'est-ce qui va se passer en termes politiques? Je pense qu'il y a une partie des gangs, et encore une fois, Guy Philippe, donc cet acteur politique qui a pris une place folle dans les trois derniers mois en Haïti depuis janvier, se place aujourd'hui comme une espèce d'intermédiaire, un broker, si vous voulez, une personne qui fait le dialogue entre le politique et les gangs. Et la façon dont il se positionne, lui, c'est amnistie pour les gangs. La façon dont il se positionne, c'est moi, je parle avec les gangs, je peux parler avec les gangs, on sait qu'il le fait, aujourd'hui, il ne s'en cache même plus. Donc, il y a une question fondamentale, là, qui se pose, y compris au sein de la société haïtienne, c'est est-ce qu'on va négocier avec les gangs? Est-ce qu'il va y avoir une justice transitionnelle? Est-ce qu'il va y avoir une justice pénale? Est-ce qu'on est capable de la mettre en place? Comment on va faire cette transition politique avec, encore une fois, un acteur, en rappelant, y compris l'échelle de ce qui se passe à Port-au-Prince? Port-au-Prince, c'est pas une ville qui est très grande. Quand vous parlez des gangs et des groupes criminels, ils sont à 15-20 minutes en trajet de voiture d'ici de la maison de la radio. C'est le contrôle territorial, il est là. Donc vous avez des acteurs que vous connaissez, des acteurs qui sont très présents et dont on ne va pas pouvoir se débarrasser très facilement.
Et ces questions très sensibles précisément de est-ce qu'on négocie, comment on imagine une transition, comment on prend acte d'une certaine manière qu'ils existent, qu'ils sont là et qu'ils vont jouer un rôle politique. Éric Seret, ces questions ont-elles été abordées lors du sommet de crise en Jamaïque?
Non, Non, ça n'a jamais été abordé. Et je rebondis sur la question de l'amnistie. Et c'est là où il y a un vrai danger. C'est-à-dire que quand on consulte les réseaux sociaux, qui sont plutôt utilisés en Haïti par la classe moyenne, qu'on voit remonter, c'est une acceptation de cette classe moyenne d'une idée d'amnistie pour les gangsters, pour les gangs. Ça veut dire qu'ils sont prêts à accepter, oui, Guy Philippe. C'est ce qui est en haut de la tendance.
Pourquoi ? Avec l'espoir que la violence baisse d'un cran ? Pourquoi comment expliquez-vous cette acceptation ?
Alors, je l'explique par ce que j'appelle en Haïti la permutation des rôles. Chacun pense qu'à un moment donné, son tour va venir. C'est-à-dire qu'hier, c'était Ariel Henry, avant, c'était Jovenel Moïse, avant, c'était Martelly, puis il y a d'autres activistes politiques qui pensent qu'aujourd'hui, leur tour est arrivé et qu'après tout, pourquoi pas, de toutes les façons, comme les gangs sont incontournables, pourquoi ne pas faire alliance avec eux, et puis surtout, accepter l'amnistie, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que si cela se fait, ça va ouvrir la porte à d'autres gangs, et puis, bien entendu, d'autres transitions à venir pour Haïti qui n'en connaît... On connaît beaucoup trop.
Et pour poser une question qui fâche, parce que si on n'accepte pas cette réalité de fait des gangs avec une amnistie, comme vous venez de l'expliquer très bien, c'est quoi l'alternative ? Est-ce qu'il y a une force qui est capable ? Parce que même une force internationale, comme vous le disiez vous-même, sont très impopulaires, ça a toujours été des échecs, et elle serait dans un pays qui a quand même une identité historique extrêmement forte comme Haïti, perçue comme une force d'occupation, si elle décide d'affronter militairement les gangs dans les rues. Donc qu'est-ce qu'il y a comme alternative à ce compromis avec les gangs ?
Alors, je pense qu'il faut que la société haïtienne accepte qu'il y a un échec. Parce qu'en Haïti, je suis haïtien, j'en suis fier, mais parler de 1804 comme la grande réussite d'Haïti, c'est terminé. C'est un fait historique. Aujourd'hui, on a une société qui a failli. On a une société où les commandeurs, parce que les élites d'Haïti sont des élites avec le fonctionnement colonial, hein. Pendant la colonisation, on avait des commandeurs, c'est-à-dire ceux qui étaient les plus avancés, les plus instruits, les plus proches du pouvoir, avaient tout et ne partageaient pas, avaient tout et maltraitaient les autres. Cette société-là a échoué également. Donc il faut que les Haïtiens l'acceptent, et puis qu'on reparte sur un autre contrat social, et puis je termine juste sur une proposition claire et nette. Moi, je suis pour... il faudrait que la France et d'autres prennent cette initiative de considérer qu'il y a des États, quand ils sont faillis, il faut passer par une chambre internationale de la souveraineté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, que ces personnes acceptent qu'on leur envoie des structures, des experts pour les aider à reconstituer leur État, à refaire vivre la société et repenser la souveraineté. Aujourd'hui, on est face à une entité faillie. On ne peut pas laisser cette entité faillie continuer de fonctionner et mettre en danger finalement la République dominicaine, la région et puis les États-Unis. Et qui, vous voyez la position
oui, je comprends bien.
La position des États-Unis.
Mais le contrat social, le nouveau, ça pourrait être quoi ?
Ça pourrait être que les élites d'Haïti reconstituent une armée, reconstituent une police, que les gens acceptent d'être formés pour apprendre ce que c'est qu'un État. Parce que vous savez, quand Haïti est sorti de la colonisation pour arriver à son indépendance, il n'y a pas eu de réflexion sur ce qu'est l'État. D'ailleurs, on le voit, à chaque transition, il n'y a pas de réflexion. Là, le Conseil présidentiel, c'est après quelle réflexion ? Il n'y en a pas. Et puis, un Conseil présidentiel porte bien son nom, c'est un conseil. Et c'est la raison pour laquelle j'avais estimé que Ariel Henry dirigeait un cadavérica. Parce que à l'époque, on faisait beaucoup référence à Jovenel Moïse qui était mort, et puis moi j'avais fait référence au pape Formose, jugé après sa mort. Et l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, oui, quand il y a des institutions en Haïti, les élites font tout pour les casser, pour les détruire. Et finalement, c'est peut-être ce qu'elles comprennent, hein. Disons les choses. Et puis, quand il n'y en a pas, on a l'impression que ça fonctionne. Mais en réalité, c'est que ce qui n'est pas encore accepté, c'est l'idée que la faillite est réelle et qu'il faut repenser Haïti en essayant peut-être de trouver... Parce que quand vous voyez la CARICOM agir, je dis non, on pourrait peut-être penser une action avec la France par le biais de la Martinique, par le biais de la Guadeloupe, une action francophone en associant la France et puis le Canada, mais pas une action où la CARICOM, finalement, est la maîtresse du jeu, alors que les élites d'Haïti, eh bien, nous racontent des histoires.
Depuis des mois, les Haïtiens se plaignent de ne pas avoir pu aller aux urnes pour élire leurs propres dirigeants et d'être gouvernés par un gouvernement qui s'est installé et qui a profité d'un certain vide politique depuis l'assassinat du président, qui lui-même avait dépassé son mandat. Est-ce que la question des élections fait partie des solutions à terme du problème? Parce que vous parlez de l'idée de refonder un contrat social. Est-ce que ça passe aussi par des élections? Mais évidemment, la question tout de suite, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a les conditions d'organiser des élections en Haïti? Romain Lecourt, Grand Maison.
Alors non, je pense vraiment que là, à court terme, c'est absolument impossible. Il n'y a ni les conditions sociales, ni politiques, ni économiques, ni sécuritaires pour le faire. Il y a des chiffres qui mentionnent que plus de 50% de la population, par exemple, aujourd'hui, vit sous le contrôle direct d'un groupe criminel. On parle de population votante y compris. Donc ça c'est la réalité, disons, sécuritaire. Ensuite, vous avez plus de 370 000 déplacés internes dans le pays aujourd'hui, selon l'OIM. Ces déplacés internes, on ne sait précisément pas d'où ils viennent exactement, où est-ce qu'ils pourraient voter demain, etc., etc. Au-delà de ces chiffres, disons, précis, les conditions sont absolument pas réunies. En revanche, on peut imaginer que, oui, la refondation de ce contrat social et de la période de transition, quelle qu'elle soit, devra s'achever à un moment ou à un autre sur la tenue d'élections. Ça, c'est absolument fondamental. Je pense que là, il y a probablement quatre phases qui s'offrent devant nous. Il y a une phase très incertaine là, probablement des prochaines semaines, avec ce conseil de transition, le niveau de sécurité, l'arrivée ou pas d'une force internationale. Ensuite, vous avez un moment où la force va probablement finir par arriver. C'est un peu en Haïti, les gens faisaient la blague sur la force internationale. C'est comme le Messie, on vous dit qu'il arrive tous les jours et puis en fait il n'arrive jamais.
Mais vous dites qu'il va finir par arriver.
On peut imaginer que la force va finir par arriver. À partir de ce moment-là, la donne va quand même changer. Je pense qu'on n'est pas capable aujourd'hui de prédire évidemment la façon dont va évoluer ni la violence, ni les gangs, ni la situation politique et sociale. La transition va être très incertaine. Le chemin est quand même un peu semé d'embûches là aujourd'hui.
On ne peut pas prédire, mais on peut évaluer les risques. Et justement, concernant ce projet de force internationale, alors il a été demandé officiellement par Ariel Henry, et ça s'était décrié parce que la population estimait qu'il n'avait pas le mandat pour le faire. Le fait est que l'ONU a adopté une résolution qui instaure l'envoi d'une force sécuritaire. Le Kenya devait la mener. Aujourd'hui, c'est suspendu. La question est, à quoi pourrait ressembler une alors je crois que c'est une force policière dont il s'agissait, environ 1000 ou 2000 hommes. Très concrètement, sur le terrain haïtien, quand on sait que les gangs tiennent la ville, sont infiltrés dans les maisons, dans les quartiers, dans les territoires, qu'ils sont armés lourdement, comment concrètement on peut désarmer, arrêter cette violence-là avec une force policière? Et puisqu'on parlait de risque, est-ce qu'il y a un risque à ce qu'il y a un engrenage de violence venu d'une force qui ne connaît pas le terrain, qui ne sera encadrée, on ne sait pas vraiment par qui et comment, ni de manière politique, ni de manière judiciaire? Voilà. Éric Sauret.
Si on prend en compte l'histoire d'Haïti, on peut faire des pronostics. C'est-à-dire que même lorsqu'il y avait l'occupation américaine, il y avait une résistance à l'interne menée par des hommes politiques d'Haïti, des paysans. Et à l'arrivée, les Américains sont partis. En 1994, les Américains ont ramené Jean-Bertrand Aristide au pouvoir avec des hommes, des armes, de l'argent. Échec. En 2004, l'ONU a ramené une force internationale conduite, dirigée par le Brésil, avec des militaires, des policiers, quasiment 10 000 hommes. Échec. On peut continuer. Autrement dit, l'échec est à venir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle je considère que, au lieu de considérer qu'on va vers une transition réussie, non, plutôt considérer que la faillite est actée et il faut repenser le contrat social. Vous savez, là, après, ceux qui souhaitaient le départ de Jovenel Moïse avaient prôné ce qu'ils appelaient la rupture, la transition de rupture. La transition de rupture. Et 3 ans après, on en est plutôt à la rupture de la transition. Vous voyez, autrement dit, les élites haïtiennes locales sont dépassées. C'est ça qu'il faut accepter. C'est-à-dire, au lieu de donner de l'argent qui systématiquement est réorienté vers les gangs par le biais des oligarchies, des élites, vous pouvez les appeler comme vous voulez, parce qu'il y a des gens qui financent tout cela. Vous savez, la plupart des chefs de gang, bon, les plus puissants sont d'anciens policiers, donc des gens du système. Les autres ne sont pas très, très instruits. Hein, d'accord ? Il y a des gens qui sont issus de la rue, etc. Donc, autrement dit, ce ne sont pas des gens qui sont en mesure de décider. Ce sont des exécutants. Après, il y a des zones où ces personnes ont réussi à prendre une certaine autonomie, parce qu'avec l'argent, vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est ça qu'il faut acter. Et donc, la force internationale, sans doute que ça va finir par arriver, mais le résultat sera le même. Hein, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le résultat sera le même. Cette société-là n'est pas prête pour des transitions. Vous savez, même, je termine là-dessus, les transitions en Haïti, la plupart du temps, c'est 2 ans. Bien. Ariel Henry, il a largement dépassé les 2 ans, et avec l'option qu'il avait prise pour des élections 2025, il aurait fait un mandat supérieur à ce que fait un président élu en Haïti. Autrement dit, je peux vous rassurer là-dessus, ceux qui sont en train de préparer le conseil présidentiel de transition sont en train de s'installer pour longtemps.
Pour pérenniser une transition.
Exactement.
Vous écoutez Culture Monde, Éric Sauret et Romain Lecourt-Grandmaison sont nos invités pour parler de la situation en Haïti en attente d'une transition, alors que les violences ont atteint un niveau inédit dans la capitale. Et comme chaque semaine, nous sommes en partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs du monde entier. C'est la bulle cartooning.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon vieux.
Assis.
Et le dessin qui nous est parvenu cette semaine nous vient de Belgique. Il est signé du caricaturiste Nicolas Vado. Dit Vado, c'est une carte du territoire que se partagent Haïti et la République dominicaine dans la mer des Caraïbes. On aperçoit également Porto Rico à l'est sous souveraineté états-unienne et Cuba au nord-ouest. En lieu et place du territoire haïtien, Vado a dessiné une arme automatique de guerre dont les contours épousent plus ou moins ceux du pays. La région du sud a pris la forme d'une crosse, celle du nord forme le chargeur. L'arme est pointée vers le nord, le canon encore fumant, entouré d'une petite étiquette avec le drapeau haïtien. Un dessin à découvrir sur le fil du compte Twitter de Culture Monde et sur notre page internet. Romain Lecourt-Grandmaison, que vous inspire ce dessin? Et puis j'ai tout de suite une question, c'est évidemment celle des armes. Vous avez déjà dit dans de précédentes émissions que les gangs étaient armés d'une manière inédite dans l'histoire du crime organisé en Haïti. D'où proviennent ces armes et à qui profite ce business?
Alors je pense que le dessin est bon. Effectivement, il manque juste peut-être les États-Unis. En l'occurrence, on peut estimer que autour de 95% des armes aujourd'hui en circulation en Haïti viennent des États-Unis. On sait à peu près comment fonctionne le trafic. Vous achetez des armes en gros, légalement, aux États-Unis, et ensuite elles passent sur un marché illicite et elles arrivent jusqu'en Haïti. C'est pas propre à Haïti d'ailleurs. Moi, je travaille sur le Mexique et c'est exactement ce qui se passe depuis des dizaines d'années au Mexique aussi. Sur la question des armes à feu, on en parlait un peu tout à l'heure. C'est absolument fondamental de s'attaquer à ces trafics-là. Il y a un armement et une transformation de la nature des gangs sur les 3, 5, 6, 7 dernières années dans leur accès aux armes à feu, dans leur capacité d'acquisition aussi. Le pouvoir d'achat vous permet d'aller acquérir ces armes sur le marché noir. Et la transformation de ces gangs, elle est très prégnante aujourd'hui. Des gens me disaient sur le terrain qu'il y a encore 3, 5, 6 ans, c'était très rare de voir des groupes entiers armés, notamment d'armes semi-automatiques ou automatiques. Aujourd'hui, c'est plus rare du tout. Vous avez un armement qui s'est profondément transformé et qui continue d'arriver. Il y a des informations de cette semaine en Haïti. Le pays est quand même fermé, la frontière est fermée, l'aéroport est fermé, les ports sont fermés. Et il y a de fortes rumeurs et des informations assez concordantes qui disent que des stocks d'armes et de munitions sont entrés dans le pays encore cette semaine. Donc il y a un flot qui est intarissable d'armes à feu, intarissable au sens où on ne fait rien pour l'arrêter, pas au sens où on ne peut rien faire pour l'arrêter.
Et si les armes rentrent, les marchandises, elles, ne rentrent pas. Or, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi une crise sociale et humanitaire extrêmement grave en Haïti. Un enfant sur quatre qui souffre de malnutrition chronique, et je n'égrène pas tous les autres chiffres. Les gangs en sont en partie responsables puisqu'ils coupent les routes et qu'ils empêchent le travail agricole notamment et les marchandises de circuler. Les États-Unis ont annoncé un pont aérien avec une aide humanitaire. Que peuvent en espérer les Haïtiens, Eric Sorel?
Pas grand-chose, comme de tout ce qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire que la population ne bénéficie de rien. C'est les la population a les subsides et puis pas grand-chose. Là, comme cela a été très bien dit, à partir du moment où vous coupez les routes entre Port-au-Prince et les provinces d'Haïti, c'est terminé. Et vous savez ce qui fonctionne? Ce sont des trajets en hélicoptère. Les hélicoptères
ceux
appartiennent.
Qui peuvent se le payer.
C'est ça. Et donc, j'en dirai pas plus. C'est-à-dire qu'autrement dit, ce n'est pas la solution. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait une vraie prise de conscience. J'en suis plutôt à cela. C'est-à-dire une vraie prise de conscience de la part des citoyens haïtiens qui comprennent que les gangs ne vont pas apporter de solution. Et demander une amnistie pour les gangs, c'est prendre encore plus de risques pour l'avenir.
Nan kem, m ka son ve ve ak pousye boulet Zanset, mwen yo benim, m pa pet doule Malez kou ma chan zeb Nan peyi pleze, manchet, mwen si yen de saline O liye m van nan mwen m pito det Zwing, se la bel lan Independence, mindset lan No boss, on se la sosye da fe Det ma, nego 4-7
Yo big bro
Mais moi pas suspendre sans rien Des fois demander si la vie bon vague Believe, n'encourage L'espoir fleurit même en bas chambal Fuck prison, moi ces oiseaux Le boy à zèle depuis ventre maman Quitte me caresser silence Que chrysanthème n'en a moins Prier monter, tracas descendre Bigavin dim si elle l'a pas vide Dignité peuple moi m'a défend Collant maman l'église Casier judiciaire gain crime M'touye Jésus dans cerveau M'prend risque même pas v'les primes Mais ton point levé dans CV Sommeil c'est dit frère l'en mort Pas quitter conscience ou cabicha Avec patience, what dream trip rêve
Jean d'Amérique est un poète, romancier et chanteur haïtien. Son dernier album s'intitule Mélancolie Gang et ce titre, Solé Gang. Il était l'invité de l'émission Affaires culturelles le 29 février dernier. Merci beaucoup à nos deux invités. Eric Sorel, je rappellerai pour vous vos deux ouvrages. L'opposition politique en Haïti, Régicide, Manicide et Tyrannicide, paru en 2022. Et puis aussi Haïti, une démocratie en perdition. Le peuple vote, le conseil décide. C'était aux éditions Dauphin Noir. Merci beaucoup Romain Lecourt, Grand Maison. Votre rapport sur la criminalité organisée en Haïti est disponible sur le site Global Initiative. Merci beaucoup Marc Semaux, on se retrouve la semaine prochaine. Et lundi, c'est Julie Gacon que vous retrouverez pour une nouvelle série consacrée à Nowruz, le nouvel an du calendrier perse. Une fête célébrée par 300 millions de personnes dans le Moyen-Orient et en Asie centrale. Elle marque l'arrivée du printemps, un printemps parfois très politique. Et dans un instant, les midis de culture.